Voilà, difficile pour moi, à 2 jours de Noël, d'éviter le sujet de la venue de Jésus. Je pensais partir dans une direction, puis le Seigneur m'a ramené à ce sujet de Noël. Ce sujet est une source intarissable. On peut vivre Noël après Noël et se dire, ben, on n'a rien. Non. Je crois qu'à chaque fois, Dieu peut toujours apporter une rosée fraîche dans cette période de Noël et apporter comme une facette de sa révélation. Nous enrichir d'une nouvelle facette de sa révélation à chaque Noël. Et Dieu m'a parlé aussi. Je crois que la venue de Jésus parle encore aujourd'hui aux croyants, à l'Église et au monde. Encore faut-il bien sûr l'entendre. Hein ? On se rappelle notamment le dessein de Dieu, bien sûr pour l'humanité, mais on se rappelle aussi à Noël la nature profonde de Dieu. Une nature qui est voilée pour beaucoup, malheureusement. On sait combien le vrai sens de Noël est caché encore pour beaucoup. Alors, ce rappel ce matin, je veux le faire à travers 2 passages de la Bible, le premier dans l'Ancien Testament, parce que vous savez que l'Ancien Testament parle de Jésus, hein, et le second, bien connu, Jacques en a pris une petite partie tout à l'heure, dans l'Évangile de Luc, un récit qui sera lu dans toutes les églises le jour de Noël. Mais j'illustrerai cette parole par des propos que j'ai recueillis, ici ou là, et notamment des propos très pertinents publiés par Objectif France, qui a lancé une campagne de prière pour la France depuis 3 semaines. Alors j'ai suivi ça, hein, à cause des événements, certainement, et je crois que c'était très pertinent qu'il y ait cette campagne de prière et d'intercession pour la France. Je crois que ça tombait bien avec les événements, c'était une bonne... D'ailleurs, les catholiques ont fait la même chose aussi, ils ont lancé une campagne de prière pour la France. Et peut-être sans cette campagne, peut-être qu'on en serait dans un... Enfin, je ne sais pas, il y aurait eu peut-être davantage de dégâts. Alors, la première lecture, c'est un peu surprenant de prendre ce texte à l'occasion de Noël, mais quand même, c'est dans le psaume 40, versets 6 à 9. Psaume 40, versets 6 à 9. Dieu m'a parlé à travers ce passage. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Donc sans hésitation, on peut affirmer que ce passage évoque la venue de Jésus. Souvenez-vous de la rencontre entre Jésus et les disciples d'Emmaüs. Et Jésus explique aux disciples en disant, il leur expliquait dans les Écritures ce qui parlait de lui, en commençant par Moïse, les prophètes et dans les psaumes. Et là, c'est le psaume 40. Ouais. Alors, voici, je viens. C'est le oui de Jésus à son Père. Et à Noël, on célèbre le oui de Jésus à son Père. Le oui à l'offrande de sa vie pour le rachat de l'humanité. Voici, je viens avec le rouleau du livre, comme l'annoncent les Écritures, en quelque sorte. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Son oui est totalement libre. Tu es dans une pleine liberté. Dieu ne s'est pas adressé à son fils, bon, allez, tu vas aller là, et puis tu vas aller donner ta vie, et tu vas aller... Hein. Non, totalement libre. C'est totalement libre qu'il choisit de s'offrir pour le monde, par amour pour son Père, par amour pour le monde perdu. Oui, la relation de la famille céleste, la relation entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint est une relation de liberté et de parfaite unité. Et l'obéissance de Jésus est une obéissance de cœur. Ta loi au fond de mon cœur. C'est-à-dire ta loi est inscrite au fond de mon cœur. La vraie spiritualité qui a sa source en Dieu n'est pas une affaire de règles ou de rites religieux. Tu ne désires ni sacrifice, ni holocauste, ni victime expiatoire, mais c'est une affaire de loi inscrite sur le cœur. Et ça, c'est la bonne nouvelle de Noël. La promesse du Saint-Esprit, Ézéchiel, associée à la promesse d'un nouveau cœur, je leur donnerai un même cœur, un cœur de chair et non de pierre. Alors quel cadeau la venue de Jésus ? Il est venu du ciel, du sein d'une famille parfaite, dans une liberté, dans une unité parfaite. Il est sorti de cette unité parfaite pour offrir sa vie véritable. Une vie de pleine liberté. Il est venu pour nous offrir l'inscription de la loi divine sur notre cœur. Vous vous rendez compte? C'est fantastique. Il est venu pour nous offrir l'inscription de la loi divine sur notre cœur. Dans un monde où il y a tant de déchirures, tant de divisions, sous l'emprise, il est vrai, de Satan, le diviseur par excellence, il est venu nous offrir la promesse d'une unité possible. Wow. Il est venu nous offrir la promesse d'une unité possible. Là où les cœurs sont prêts à sourire avec confiance. Quel cadeau! Et ça, c'est un miracle que le monde veut voir dans l'Église. Quand des gens de toute génération... de toute culture, de tout contexte social, manifeste cette unité de cœur. On veut cela, hein, dans l'Église. Hein. Et ce n'est pas étonnant que le psalmiste, sous l'inspiration du Saint-Esprit, déclare « Nul n'est comparable à toi ». L'avenue de Jésus, c'est l'avenue de l'incomparable. Qui n'a d'égal nulle part. Il y a un chant comme ça, je crois, ils sont, oui, incomparables. C'est bien la venue de la lumière du monde, celui qui est bien au-dessus de toutes les religions. Voilà déjà ce que nous apporte un texte de l'Ancien Testament qui parle de Jésus. Alors maintenant, on va prendre un texte du Nouveau Testament, mais un texte connu, c'est Luc, on va se rappeler ce récit. Je vais lire les versets de 1 à 20 et je vais dégager juste deux choses qui nous rappellent sur la nature profonde de Dieu. Et je vous laisse avec une question. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem. Bethléem qui veut dire maison du pain. Jésus, le pain du ciel. Hein. Parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta un fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem, voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, ils y trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Voilà. Que nous rappelle ce récit qu'on lit chaque année à Noël ? Il nous apporte toujours une lumière sur la nature profonde de Dieu en la personne de ce Sauveur. Et ce sont les anges qui nous le rappellent dans leur déclaration au berger. Le premier rappel, verset 14, c'est un ange qui dit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent, dit-il au berger. » D'autres versions disent gloire à Dieu et bienveillance. Bienveillance envers les hommes. Le verbe agréer, d'ailleurs, parle d'une disposition bienveillante, d'une intention bienveillante. Si tout le monde pouvait connaître, savoir que Dieu est bienveillant, c'est caché encore pour beaucoup. La venue d'un sauveur. Sauveur pour son peuple Israël, mais appelé aussi être lumière du monde, le sauveur du monde. Les anges proclament la manifestation d'un Dieu bienveillant qui pose un regard de bonté sur les hommes, qui vise le bonheur des hommes. Le récit de Noël nous révèle ou nous rappelle, en l'incarnation de Jésus, la réalité d'un Dieu bienveillant. Deuxième rappel, à travers encore la bouche d'un ange. Oui, c'était une multitude des anges, le premier rappel. Là, c'est seulement un ange, verset 12. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Quelle réponse déroutante. Ce Messie glorieux que beaucoup de Juifs attendaient, juste un petit enfant couché dans une pauvre table. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. C'est encore plus déroutant de savoir que ce sont des hommes au statut modeste de berger qui reçoivent les premiers cette information. Ce récit de Noël nous révèle encore ou nous rappelle l'humilité de notre Sauveur. Voici, je suis doux et humble de cœur, venez à moi. Il nous appelle à venir à lui comme un serviteur doux et humble de cœur. Et voilà une question centrale, moment de Noël. Est-ce que la bienveillance et l'humilité nous caractérisent en tant que chrétiens ? La bienveillance et l'humilité. Voilà, c'est une question que le Seigneur nous pose. Et c'est là que j'en viens à des voix prophétiques que j'ai entendues ici ou là, autour de moi, et qui collent avec ce que je viens de dire. Il y a cette question centrale que je viens de poser. Donc je vous ai parlé d'Objectif France, voilà. Vous savez que notre pays passe par une période très difficile. Beaucoup de chrétiens s'emparent de ce contexte pour nous inciter donc à l'intercession, je le dis, en faveur de notre pays, pour un retour à Dieu notamment. Et ainsi, Objectif France, qui est responsable des 40 jours de jeûne et prière depuis des années, vous savez, a lancé une campagne de 3 semaines depuis le 1er décembre. Voici ce que j'ai lu au 4e jour. Au 4e jour. Le titre, jour 4, la bienveillance. La bienveillance, une quête des Français une promesse électorale, une facette du cœur de Dieu. Dieu est bienveillant. La souffrance est toujours le produit du péché, comme commis ou subi, mais à tous nos désarrois, le Père répond par ses desseins bienveillants. Matrice d'un avenir fait d'espérance, il nous appelle à la bienveillance, qui est un fruit de l'amour et de l'esprit, et la conséquence directe de notre salut. La bienveillance est l'empreinte de la grâce de Dieu qui agit en nous. Elle se voit inévitablement dans notre attitude envers tous les hommes, marquée d'une réelle douceur et constante. Il y a une vidéo qui a circulé sur Facebook, je crois que c'est Aurélie qui l'a fait circuler, une vidéo d'une interview de Yann Arthus Bertrand, qui, vous savez, est le producteur de ces émissions Vues du Ciel, ces magnifiques émissions, qui a participé, je crois, un peu à l'encyclique du pape sur l'écologie, je sais pas quoi, là, hein, on a entendu parler. Et il a cette phrase étonnante, Yann Arthus Bertrand. J'avais les voix prophétiques parfois, elles dépassent le cadre de l'Église, et parfois Dieu utilise des gens qui sont pas forcément des chrétiens, parce que peut-être parfois les chrétiens n'entendent pas, et parfois il peut utiliser des gens, même si c'est pas, enfin, même si c'est pas exactement la pure vérité ce qui est dit, mais c'est, ça lance quelque chose. Et il disait ceci, il disait une parole très à propos en rapport avec les événements récents. Il disait, il nous faut une révolution, mais elle ne sera ni politique, ni économique, ni écologique, mais elle sera spirituelle. En ce sens qu'il nous faut davantage manifester les valeurs de l'empathie, de la compassion et de la bienveillance. Il faut que ce soit un non-croyant qui le dise. Enfin, peut-être qu'il est croyant, je ne sais pas. Hein. Oui, oui, en fait. Et voici ce que j'ai lu au 12e jour de cette campagne. Le titre, jour 12, l'humilité, la clé pour une nouvelle saison. L'humilité est la marque du chrétien. Où en sommes-nous? Cette marque de l'humilité le distingue premièrement du monde gouverné par Satan, l'orgueilleux par excellence. L'humilité au lieu de l'arrogance. C'est le temps pour l'Église de vouloir ressembler à Jésus. Face aux autorités du pays, plutôt que de lister leurs défauts drapés dans notre indignation chrétienne, soyons responsables de notre pays. Manifestons qui nous sommes en Jésus, la lumière du monde, appelée à briller devant les hommes pour qu'ils voient le bien que nous faisons et qu'ils en attribuent la gloire au Père Céleste. Prions avec enthousiasme pour les dirigeants de la nation, bénissons-les avant tout et appelons la sagesse et le salut sur leur vie sans relâche. Prions Dieu de nous garder de la vanité de vouloir avoir raison, ou essayer de prouver qu'on est plus spirituel que l'autre. Rachetons le temps en nous aimant en vérité par amour pour celui qui nous a aimés le premier. J'ai trouvé vraiment ces paroles très pertinentes. Et dernièrement, l'événement Lille, tout est possible, quelques-uns y étaient. Il y avait cette interpellation de Carlos Payan qui interpellait les maris et qui disait aux maris, quand est-ce la dernière fois que vous avez dit à votre femme, tu as raison? On peut dire la même chose aux femmes aussi. Quand est-ce la dernière fois que vous avez dit à vos maris, tu as raison? C'est-à-dire cette capacité de descendre et de dire, bah, ouais, je me suis trompé. Tu as raison. Ouais. Annette et moi, on a vu cette semaine un film sur le pape François. Même si on peut ne pas être d'accord avec tous ses propos, moi il y a beaucoup de propos avec lesquels je suis d'accord avec lui, mais peut-être pas à 100%, mais il faut reconnaître qu'il manifeste cette marque de la bienveillance et de l'humilité qui caractérise le Christ. Et beaucoup le reconnaissent. Et quand il visite les pays d'Amérique latine, etc., même les pauvres reconnaissent le Christ à travers lui, mais on peut briller sans être pape aussi, hein. On peut briller sans être pape. On peut rayonner comme des foyers de lumière au milieu d'un monde enténébré pour que beaucoup reconnaissent le Christ en nous par cette bienveillance et cette humilité. C'est le fruit de l'esprit, hein. C'est le fruit de l'esprit. Je termine. Il n'est pas tard, on a encore le temps de chanter un chant d'adoration avec ces trois béatitudes de l'évangile de Matthieu. Dans une version dynamique, parole vivante. Heureux ceux qui sont humbles et doux, ceux qui renoncent à leurs droits, car Dieu leur donnera la terre entière en héritage. Wow, c'est beau ça. Heureux ceux qui ont un cœur compatissant, sensible à la misère d'autrui, car Dieu aura aussi compassion d'eux. Que c'est beau, hein. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Alors je vous invite à fermer les yeux, hein, et puis on va demander, hein. On va demander, on va remercier Dieu pour son grand amour à Noël et lui demander ce fruit, encore plus ce fruit de la bienveillance et de l'humilité. Oh Seigneur, qu'il est grand ce mystère de Noël, ce mystère de l'incarnation. Tu as choisi de quitter ton ciel et la chaleur de ta famille céleste et tu es venu vulnérable dans la peau d'un bébé, couché dans une pauvre étable, avec comme seul témoin des pauvres bergers. Mais la gloire de Dieu était là, avec ses anges qui ont proclamé « Gloire à Dieu très haut, bienveillance envers les hommes !» Tu es venu partager notre misère et par ton sacrifice, tu as payé le prix de la rançon pour pouvoir nous amener dans ton ciel où il y a cet amour parfait, cette unité parfaite. Oh, que ce mystère est grand. Et dans mon esprit, au cours du culte, je voyais des fleurs, je voyais des arbres, je voyais des œuvres nouvelles. Que Dieu l'ait initié à nouveau ici, dans cette église. Fruit de cet amour. Fruit de cette bienveillance. Le Seigneur va donner de la créativité pour manifester cette bienveillance. Et pour que le monde croie, pour que le monde voit et reconnaisse le Christ à travers ses œuvres préparées d'avance, que nous allons produire. Amen. Et je pense que l'ultime réponse, enfin, vous savez, à Noël, les bergers, ils ont vu le bébé, ils ont entendu les anges. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont mis à genoux, ils ont adoré. Et les rois mages, quelques temps après, sont venus, ils ont adoré. Alors on va terminer par un chant d'adoration, si vous êtes d'accord, hein ? Un chant qui s'intitule « Ébloui ». Je pensais, pour ne pas fatiguer Jacques, le mettre, mais j'avais uniquement mis le lien sur mon... Et donc comme il n'y a pas Internet ici, on ne peut pas. Si vous voulez l'écouter chez vous, c'est Dan Lutten, « Ébloui » par Dan Lutten. Ah, vous allez passer un bon moment d'adoration. Voilà, mais on va le prendre ensemble. « Ébloui ». Il y a de quoi être ébloui avec ce que Dieu a fait, hein, à Noël.